I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello les mamas, bienvenue dans le podcast qui parle de la maternité, la vraie. Celle qui épanouit, qui intrigue, qui fait peur. Celle qui bouleverse, qui construit, qui propulse en terre inconnue. Celle qui concerne tant de femmes que l'on entend si peu. Chaque semaine, l'une d'entre vous nous raconte son histoire sans filtre. Est-ce qu'elle a toujours rêvé de devenir mère? Comment s'est passée sa première grossesse? Quelles ont été les joies et les épreuves qu'elle a traversées? Qu'est-ce que la maternité a changé dans sa vie? Des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chère mamase, future mamase ou pas mamase du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Plus jeune, Mélanie pensait mettre sa carrière au premier plan avant d'avoir des enfants. Elle rencontre son chéri et sa famille et finalement, la maternité arrive plus tôt que prévu. À 24 ans, elle devient mère et va mettre sa carrière entre parenthèses car être sur la route toute la journée n'est pas compatible avec ce qu'elle veut pour sa maternité. Son mari, lui, est footballeur professionnel et sa carrière va évoluer au fil des grossesses de Mélanie. Cela implique beaucoup de déplacements et beaucoup de déménagements pour toute la famille. Si Mélanie s'accommode très bien de cette vie de femme de footballeur, elle redoutait quand même que son mari ne puisse pas être présent pour son deuxième accouchement. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'est que tout allait se passer très vite, chez elle, et qu'elle allait vivre la plus intense et belle expérience de sa vie avec sa maman. Dans cet épisode, Mélanie nous raconte pourquoi les pompiers sont arrivés en retard, comment sa maman a géré comme une chef, et comment ses enfants vivent cette vie de nomade avec un papa footballeur. Bonne écoute. Bonjour Mélanie.
Salut Shane.
Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas.
Mais de rien, c'est avec plaisir.
Alors toi, tu es la maman de deux enfants. Ils ont quel âge?
Alors, donc la première, elle a 5 ans, qui s'appelle Alia. Et la deuxième, le deuxième, pardon, il a 2 ans et il s'appelle Adem.
Alors, on va revenir avant que toi tu deviennes maman. Comment tu envisageais la maternité, toi, quand tu étais plus jeune? Est-ce que c'est toujours un sujet qui t'a intéressé? Est-ce que tu as toujours pensé devenir mère plus tard ou pas du tout?
Eh ben, écoute, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que je m'imaginais être maman beaucoup plus vieille.
Ouais.
Je m'étais toujours dit que voilà, je ferais un petit peu ma carrière professionnelle avant d'être maman. Et je m'étais toujours dit que voilà, que les enfants, ça serait après 30 ans. Et en fait, à 24 ans, j'ai eu ma fille. Donc, comme quoi, on choisit pas forcément et on change souvent d'avis.
Ouais.
Et en fait, ce qui m'a fait changer un peu d'avis, c'est le fait d'avoir rencontré mon mari. C'est d'avoir aussi rencontré sa famille. Il y a beaucoup d'enfants dans sa famille. Et ce que je n'avais pas dans la mienne.
Okay.
Et du coup, forcément, c'est ça qui m'a donné envie, forcément, d'avoir des enfants beaucoup plus jeunes et de revoir mes priorités, on va dire.
Ouais, ça faisait combien de temps que vous étiez en couple?
Ah, nous, on s'est rencontrés très jeunes, on avait 20 ans.
Ok.
On s'est mariés à 23 ans. Et c'était juste après notre mariage, quoi. C'est moi qui ai engagé la discussion, parce que moi, je lui avais toujours dit, je veux pas d'enfant avant 30 ans, donc,
ouais.
Donc c'est moi qui avais un peu engagé la discussion, et puis voilà, ça s'est fait tout seul, hein, mais c'est vrai que du coup, j'ai rapidement changé d'avis, quand j'ai commencé à côtoyer les enfants de sa famille, forcément, j'ai eu l'envie de devenir maman aussi, à mon tour.
Et alors toi, ton mari, il a une situation professionnelle un peu particulière parce qu'il est footballeur, donc ça, t'as dû t'adapter aussi aux absences, on va en parler pendant l'épisode, je précise maintenant. Donc déjà, comment t'as découvert que t'étais enceinte? Comment ça s'est passé? Est-ce que déjà ça a pris du temps ou c'est arrivé assez rapidement une fois la décision prise de devenir parent?
Et écoute, non, ça a été assez rapide. Je m'attendais pas du tout à que ce soit aussi rapide justement. Nous, on s'était dit bon, j'arrête ma contraception, puis on verra bien quand ça viendra, quoi. On n'était pas non plus focalisé tout de suite. Non, il faut que. Enfin, après, on était jeunes, hein, donc du coup, on s'est pas tout de suite mis la pression en se disant, voilà, il faut que je tombe enceinte rapidement ou quoi. Moi, je me prenais pas du tout la tête. Je comptais même pas, voilà, mes jours d'ovulation ou quoi. Hein, je regardais rien ouais. de tout ça. Mais effectivement, ça a été assez rapide. Je suis tombée enceinte 2 mois après l'arrêt de ma contraception.
Ah oui.
Donc ça a été une surprise parce que du coup je m'y attendais pas. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Donc ça a été une surprise et en fait, j'avais des grosses douleurs de dos, en fait, j'avais une énorme sciatique, voilà, moi pour moi, c'était le travail, j'étais trop surmenée et en fait, le médecin a voulu me donner des anti-inflammatoires.
Ouais.
Et comme effectivement j'avais arrêté ma contraception, je m'étais dit dans le doute, mais bon, je me suis dit c'est vraiment pour m'assurer, voilà, qu'il n'y ait pas de grossesse si jamais je prends des anti-inflammatoires. Mais pour moi, j'étais pas du tout enceinte. Donc dans le doute, j'ai fait un test de grossesse et c'est avéré positif. Donc ça a été la grande surprise.
Ouais, trop contente.
C'est ça, ouais. J'étais très très contente, mais en même temps très surprise que ça ait pris. Enfin, ça a été aussi rapide. Parce que moi, on m'avait dit au moins 6 mois, 1 an. Voilà, surtout que j'ai pris une contraception assez jeune, donc du coup, je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps. Mais en fait, pas du tout, hein, comme quoi ça veut rien dire, ouais. Hein, c'est vraiment en fonction de chacun, hein, ça veut pas dire grand chose. Le fait d'avoir pris la contraception jeune, ça veut pas forcément dire quelque chose.
Et alors toi, à ce moment-là, tu bosses, t'es en fin d'études, parce que tu disais que tu voulais mettre d'abord ta carrière avant de mettre la parentalité au centre de ta vie. Qu'est-ce que tu faisais, toi, juste avant de tomber enceinte?
Alors moi j'étais à fond dans mon job de commercial, c'était le speed tout le temps, je partais très tôt le matin, je revenais très tard le soir, enfin c'était le boulot toute la semaine, enfin j'arrêtais jamais de bosser quoi. Donc c'était vraiment, j'étais en plein dans ma carrière professionnelle en fait, et c'est vrai que du coup ça a été un petit peu dur à gérer au début parce que le médecin m'a tout de suite arrêté vu que je faisais énormément de routes.
Ah oui.
Donc ça a été très dur au début de tout stopper, voilà, de rester à la maison, pas bouger. ça a été très dur.
Ah oui, dès le début de ta grossesse, il t'a demandé d'arrêter les déplacements?
Oui, tout de suite, parce que comme je faisais beaucoup de routes, en fait, dès que j'ai été le voir. Après, parce que bah lui, j'étais le voir pour mon mal de dos, et quand je suis retournée le voir pour lui dire bah en fait je suis enceinte, il m'a dit bah justement que la sciatique, ça pouvait être un symptôme aussi par rapport à la grossesse, et il m'a dit tout de suite je t'arrête parce que tu fais trop de routes et il peut y avoir des risques de fausse couche en début de grossesse, donc du coup il m'a arrêtée tout de suite.
D'accord. Donc là tu bosses plus du tout ou tu peux quand même travailler un peu à distance en étant commerciale ou tu stoppes vraiment toute activité?
Non, plus du tout parce que comme enfin le travail que je faisais c'était uniquement sur le terrain.
OK.
Du coup bah obligé de tout arrêter hein, c'était ouais, on pouvait pas avoir de rendez-vous à distance ou quoi donc du coup ouais, tout de suite ça a été stop.
OK.
Ça a été dur au début hein. Franchement ça a été dur.
Mais ouais, comment t'occupais tes journées?
C'est ça. Moi, je me voyais déjà en train de faire du tricot sur mon canapé. J'étais dépitée au début. Hein. Franchement, je pensais pas que ça allait. J'allais devoir m'arrêter comme ça dès le début. Mais et en plus de ça, il y a eu l'arrêt du travail et en même temps, moi, il était hors de question. Enfin, j'étais fumeuse avant. Et il était hors de question pour moi de fumer enceinte. Donc, j'ai tout de suite aussi arrêté le tabac. Donc l'arrêt du travail, l'arrêt du tabac,
c'était ah oui, challenge.
Tout en même temps. Au début, c'était un peu compliqué.
Ouais.
C'était un challenge, ouais, effectivement. Mais c'était pour la bonne cause.
Bien sûr. Et ton chéri était avec toi pendant la grossesse?
Alors oui, cette année-là, il n'était pas encore vraiment à haut niveau. Enfin, il était encore dans un niveau amateur.
D'accord.
Du coup, il était quand même un peu plus présent que pour ma deuxième grossesse. Donc ça a été, on a quand même pu vivre la grossesse ensemble, voilà, ça a été, c'était chouette.
Ouais. Et globalement, comment s'est passée cette première grossesse?
Bon, très bien, hein. Il y a eu juste une petite complication, je crois, à partir de 6 mois, parce que c'est vrai que je suis une personne très active, et du coup, je bougeais beaucoup trop, et mon col s'est ouvert.
Ah.
Un petit peu trop tôt.
Ouais.
Donc voilà, il fallait que je reste un petit peu tranquille, quoi. Il fallait éviter de faire le ménage ou voilà de trop bouger. Il fallait rester le maximum au repos. Mais sinon, non, tout s'est bien passé. Voilà, il n'y a pas eu d'autres complications. Voilà, ça a été une très belle grossesse.
Est-ce que tu avais fait un projet de naissance ?
Non, du tout. J'ai pas fait de projet de naissance. Après, j'avais quand même le projet... Alors, pour l'accouchement, du coup, non, pas de projet de naissance. Mais j'avais le projet d'allaiter. Pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important et j'avais vraiment l'envie d'avoir cette expérience-là avec mon bébé. Enfin, c'était pour moi, c'était comme une évidence. Je voulais vraiment l'allaiter, donc j'ai fait quelques préparations à l'accouchement ou en plus c'était dans une maternité qui était très axée justement allaitement. Donc du coup, en même temps, il y avait un petit peu de préparation aussi à ça, à l'allaitement, voilà. Mais c'est la seule chose que j'ai faite, hein, c'était vraiment les cours classiques de préparation. Mais sinon, j'avais pas forcément de projet, non. Je te cache pas que, comme je pense beaucoup de femmes, pour un premier bébé, pour moi, c'était la péridurale, c'était tout ça. Je pensais pas encore justement au côté naturel, physiologique, voilà, que j'ai pu connaître par la suite. Mais non, le premier accouchement, je voulais vraiment un accouchement bah, classique, médicalisé, voilà, avec péridurale. Voilà, je voulais. En fait, la seule chose vraiment que je voulais, c'est que ça se passe bien et que mon bébé soit en bonne santé. Et que tout se passe bien.
Et alors, tout s'est bien passé ?
Alors, ça a été très long,
ouais,
pour ma fille. J'ai eu peut-être des contractions qui ont débuté à 4h du matin et j'ai accouché le lendemain à 8h. Donc, ça a été quand même assez long et je n'ai pas pu avoir la péridurale avant minuit. Donc, c'est vrai que ça a été assez éprouvant de supporter justement les contractions jusqu'à minuit. Au début, ça va, mais... quand on arrive le soir vers 22h, là, avec la fatigue, c'est plus compliqué à gérer. Et puis, il pouvait pas mettre la péridurale parce que mon col restait bloqué, il était fermé, il voulait pas s'ouvrir malgré que les contractions étaient de plus en plus fortes. Et du coup, après, à minuit, j'ai eu la péridurale et puis, là, on a encore patienté. Et puis, sinon, tout s'est bien passé. Lors de l'accouchement, il n'y a pas eu de forceps.
Ouais.
Voilà, ça a été très rapide, par contre, pour la sortie du bébé, on va dire. Ça a été très rapide. Donc, non, ça s'est très, très bien passé. Mis à part, la longueur, en fait, de l'accouchement, ça s'est très, très bien passé.
Et alors, est-ce que tu as réussi à l'allaiter comme tu voulais?
Oui, franchement, ça a été vraiment une super expérience. Après, bien sûr, comme la plupart des femmes, il y a des petites douleurs au début, mais j'ai réussi à passer outre. J'ai eu la chance de pas avoir de crevasses ou des choses comme ça, donc c'est vrai que ça s'est rapidement mis en place et ça s'est super bien passé. Il y a qu'au retour à la maison où c'est vrai que la pauvre, on était en pleine canicule.
Ouais.
Donc elle réclamait beaucoup la tétée parce que elle avait soif, elle avait chaud. Ça a été très difficile pour elle, hein, la pauvre. On était vraiment dans une grosse canicule. C'était la canicule de 2018. C'était une grosse canicule. Mais sinon, voilà, à part ça, tout l'allaitement s'est très bien passé et c'était une super expérience.
Et comment se sont passés tes premiers pas dans la vie de maman ? Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ce nouveau rôle ou pas trop ? T'as dû prendre tes marques ?
Après, comme toute maman, quand on devient maman, on est un peu dans le flou au début, forcément, parce que c'est tout nouveau pour nous, c'est une nouvelle vie. Enfin, clairement, toute notre vie change. Hein. C'est, pour moi, c'est plus du tout la même vie. Hein. Moi, c'est l'impression que j'ai eue. J'ai l'impression de renaître, en fait, en même temps que ma fille. Ça a été vraiment... Et en même temps, on découvre, on apprend en même temps sur le tas. Mais sinon, pour ma part, ça s'est très bien passé. En fait, c'était que du bonheur. C'était tellement du bonheur que, et c'est tellement instinctif aussi. Enfin, je pense qu'on a tout ça en soi. On a tous la maternité en soi. Tout de suite, on a ce côté maternel qui apparaît et qui prend le dessus. Et des fois, on fait des choses sans forcément réfléchir. Et pour moi, c'est ça l'instinct maternel, en fait. C'est de faire des choses. On sait pas forcément ce qu'on fait, mais on les fait. Et on sait que c'est les bonnes choses qu'il faut faire. Et du coup, là-dessus, non, franchement, j'ai eu tout de suite ce côté maternel et ça a été vraiment une explosion de bonheur quand ma fille elle est arrivée. Ouais.
Tu avais pris un congé maternité ou parental derrière particulier ou tu as repris le boulot après ton travail de commercial ?
Alors au début, je réfléchissais justement si j'allais effectivement faire un congé maternel derrière ou alors reprendre, mais c'est vrai qu'après en discutant un peu avec mon mari et en se posant, on s'est vite rendu compte que c'était pas un métier qui était adapté pour une vie de maman. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon point de vue. C'est comme j'avais vraiment un métier où je passais mon temps au travail. Enfin, clairement, c'était. J'avais pas forcément de vie perso à côté. Du coup, je me voyais pas laisser ma fille et retourner à ce travail aussi prenant et louper toute la première année du moins de ma fille en la passant au travail. Donc du coup, je me suis arrangée avec mon entreprise, on a fait une rupture conventionnelle et du coup, j'ai pu vivre ma vie de maman à plein temps la première année.
D'accord. Et alors, comment le sujet d'un deuxième bébé est arrivé
assez rapidement quand même. C'est vrai qu'avec mon mari, on s'était toujours dit qu'on voulait quand même plusieurs enfants. Au moins deux. Et c'est vrai qu'on s'était toujours dit qu'on voulait pas qu'ils aient trop d'années d'écart parce que on voulait qu'ils soient quand même assez proches. Enfin, voilà, on voulait que ça soit quand même assez rapproché sans trop l'être non plus. Donc, c'est vrai que quand ma fille a approché, quand elle a eu 2 ans, et ben, ça passe vite déjà les 2 premières années. Et on s'est dit, ah oui, déjà, elle a déjà 2 ans. Donc, on s'est dit, pourquoi pas effectivement faire le deuxième comme ça. Peut-être, le temps de la grossesse, le temps de tomber enceinte, peut-être qu'ils auront, 3 à 4 ans d'écart et on trouvait ça bien. Donc, du coup, naturellement, on s'est dit, elle a 2 ans, on va essayer de voir pour le deuxième.
D'accord. Donc là, t'avais pas repris le boulot et ton mari, lui, était passé en statut pro. Moi, je sais pas comment ça marche chez les footballeurs, mais il avait changé de game, quoi. Il était monté dans le game.
Là, c'était, on n'avait plus la même vie parce que, alors déjà entre deux, on a vécu 2 déménagements. Donc, quand ma fille a eu 1 an, on est parti en Corse,
okay.
À Bastia. On est resté 1 an en Corse et ensuite, à ses 2 ans, on était à Laval en Mayenne. Et donc là, oui, il était dans un statut, pratique, enfin pro. Et c'est vrai que là, du coup, c'était plus du tout la même vie. C'est vraiment toute sa vie est consacrée pour le foot.
Ouais.
Et la mienne d'ailleurs. C'est toute notre vie tourne autour de foot. Et du coup, c'est vrai que quand on a parlé du deuxième, effectivement, on était à Laval et là, on était vraiment en plein dans le foot. Et lui, il était vraiment dans la période où il était vraiment au summum, on va dire, de ses capacités. Enfin, c'était un peu la période où il brillait un peu plus. Et du coup, c'est vrai que du coup, ça parlait beaucoup de déménagement en même temps. On savait qu'on allait devoir même déménager certainement l'année d'après.
Ah oui, d'accord. Et ça, vous en aviez parlé avant, même avant de devenir parent, qu'il y aurait une possibilité après que sa carrière évolue et que vous ayez souvent des déplacements à faire, des déménagements.
Alors, on en a parlé sans vraiment en parler. En fait, moi, quand je l'ai rencontré, il m'avait dit qu'il était joueur de foot. Mais alors, au début, j'ai été très surprise, en fait. Je l'ai pas trop pris au sérieux. Je me suis dit, enfin, je me rappellerai toujours quand il m'a dit je suis joueur de foot. Je lui dis, oui, mais ton métier, enfin, j'ai pas cru que c'était son métier. En fait, je pensais que c'était une passion pour lui au début. Donc, je pense que j'étais loin d'imaginer l'ampleur que ça allait être par la suite. Parce que quand je l'ai rencontré, il était encore dans un niveau assez amateur. Donc, j'étais loin de m'imaginer que ça allait prendre des ampleurs comme ça, même si je voyais que, bien sûr, il était bon au foot, J'étais loin de penser à tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, on a été embarqué là-dedans comme ça, quoi, sans forcément en parler. On a été embarqué dans cet engrenage. Tout de suite, on déménage. En plus, le premier déménagement, ça a été très folklore parce que il m'a dit qu'il signait à Bastia un jeudi soir et le samedi matin, on était en train de charger la voiture parce qu'il partait, quoi. C'est toujours toujours 2-3 jours avant, généralement. Donc, c'est vrai que ça a été un choc parce que je me suis dit ah ça y est, là, c'est en train de s'enclencher. Et c'est tout de suite, quoi. On n'a pas le temps de s'adapter parce que c'est tout de suite. Donc c'est vrai qu'on en a parlé sans vraiment en parler, quoi. On a plus été pris dans la vague du foot, quoi.
Ouais.
Ça a été très rapide.
Ok, donc là, deuxième bébé.
C'est ça.
Comment ça s'organise? Donc tu disais que vous aviez déménagé à ce moment-là aussi.
Alors à ce moment-là, quand on a parlé du deuxième, on venait d'emménager à Laval. Et c'est vrai qu'on se disait, donc on peut commencer à envisager, à penser au deuxième. Mais effectivement, l'année prochaine, on risque quand même de déménager. Donc, tout en sachant que j'allais sûrement vivre une grossesse ou un accouchement en plein déménagement.
Ouais.
Ça, déjà, on s'y attendait. Mais bon, voilà, on a fait avec.
Et donc là, ça a été rapide aussi pour que tu tombes enceinte ?
Alors là, ça a été très rapide parce que dès l'arrêt de ma contraception, je n'ai pas eu de retour. Je suis tout de suite tombée enceinte. En fait, ça a été. J'y croyais pas. Mon mari m'a dit t'es enceinte. Je lui ai dit mais non, c'est normal. C'est au début quand on arrête une contraception, on est un peu décalé, les hormones et tout ça. Il me dit si t'es enceinte. J'ai dit, non, je suis pas enceinte. Bon. Bah, j'ai fait un test, j'étais enceinte.
Donc, il avait plutôt raison.
Donc ça a été très rapide, ouais, très très rapide. C'est ça, comme quoi il me connaît bien.
Alors comment s'est passée cette deuxième grossesse ?
Alors cette deuxième grossesse, elle a été franchement pareil, une très belle grossesse, même mieux que pour ma fille, parce que genre là j'ai pas du tout été malade, pas de nausée, mis à part la petite nausée du matin.
Ouais.
Mais c'était quand même une grossesse assez agréable, beaucoup de fatigue, mais il paraît que c'est quand même assez régulier, généralement pour une deuxième grossesse, même grosse fatigue, vraiment à dormir toute l'après-midi, enfin toute la journée.
Ouais.
Je me suis pas trop reconnue à cette période-là d'ailleurs. Mais sinon, non. Après, le petit inconvénient de cette grossesse-là, c'est que dès 4 mois, j'avais déjà je sais pas si on peut appeler ça des contractions à 4 mois de grossesse, mais j'avais un semblant de contraction et c'est vrai qu'à 5 mois de grossesse, on a eu une petite frayeur parce que lors d'un contrôle chez la sage-femme, elle m'a tout de suite envoyée à l'hôpital parce que mon col était déjà raccourci, je crois, et commençait à s'ouvrir.
Ok.
Et là, c'est vrai que ça a été très dur parce que lorsqu'elle me dit ça. Mon mari est en déplacement à l'autre bout de la France, ouais. Et il n'est pas là pendant 2-3 jours. Et moi, j'ai ma petite fille de 2 ans avec moi. Et elle me dit, il faut que tu ailles tout de suite à l'hôpital faire des examens. Et il se peut qu'il te garde.
Ah oui.
Donc, je sors de chez la sage-femme, j'appelle mon mari, je me mets à pleurer, je me dis comment je vais faire, je suis toute seule, t'es pas là. Donc, il m'a un peu reboosté, il m'a dit, écoute, t'inquiète pas, comme d'habitude, tu vas réussir à gérer. Enfin, voilà, ça va le faire, on va réussir à trouver une solution. Et ce qui est très bien, c'est que dans le foot, on a toujours la chance de rencontrer d'autres femmes, de joueurs, qui connaissent forcément la même situation que nous. Donc j'en ai appelé une et elle m'a dit t'inquiète pas Mélanie, je viens chercher ta fille, je t'emmène à l'hôpital, t'inquiète pas, je t'ai pas toute seule. Donc franchement heureusement qu'elle était là d'ailleurs. Elles étaient deux, donc les deux elles ont pu bien m'aider, dont une qui était très enceinte aussi comme moi. Donc c'est vrai, heureusement qu'elles étaient là et du coup elles m'ont emmenée à l'hôpital. Et Dieu merci, à l'hôpital, ils m'ont dit, c'est vrai qu'il faut faire très attention parce que là, votre col, il commence à bouger et c'est pas normal à ce stade de grossesse. Donc là, tout de suite, ils m'ont dit, vous arrêtez tout. Et ils ont dit, c'est simple, si vous vous arrêtez pas, c'est nous, on vous hospitalise et vous serez obligé de vous arrêter. Donc du coup, là, j'ai essayé vraiment de minimiser au maximum les efforts, même de pas trop porter ma fille jusqu'à la fin de ma grossesse, quoi. Mais c'est vrai que c'était un petit coup où, ouais, ça nous a fait un peu peur. Ouais. Voilà, mais sinon, après, toute la grossesse s'est bien passée.
Il y a une vraie solidarité entre les femmes de footballeurs, ça c'est chouette, parce qu'effectivement, là, t'avais ni famille, ouais. Ni entourage, en fait, quand tu déménages comme ça.
C'est ça, ouais. J'avais personne autour de moi, et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est le seul repère qu'on a, c'est toujours quelques femmes avec qui on a un peu noué des liens, et c'est vrai qu'heureusement parce que on est c'est un peu la seule famille entre guillemets qu'on a à côté de nous.
Ouais. Comment vous nouez des liens d'ailleurs, c'est comment vous vous rencontrez ?
Alors généralement quand on peut, on essaye de se voir au stade. Généralement quand on va voir notre mari jouer, on peut se rencontrer là-bas. Alors après à Laval c'était un peu plus compliqué parce que c'était la période Covid. Donc du coup, pour se rencontrer, c'est un peu plus compliqué. Et moi, ce que j'avais fait quand j'étais arrivée à Laval, c'est que j'avais fait un petit repas à la maison avec des collègues de mon mari, histoire de pouvoir de se rencontrer. Et on a eu la chance avec une des deux femmes qui ont pu m'aider justement cette année-là. On était déjà ensemble à Bastia.
D'accord.
On s'est suivis à Laval. On avait déjà... on savait qu'on était déjà tout de suite moins seules parce qu'on se connaissait déjà toutes les deux.
Ouais.
Et après, on a noué avec une autre femme sur place. Mais c'est vrai qu'il faut faire la démarche pour pouvoir se rencontrer, parce que sinon, si on la fait pas, on reste chacune dans notre coin. Et et c'est plus compliqué, je trouve.
Ouais, c'est pas évident.
C'est dommage de rester dans son coin.
Bon, et alors, donc la fin de grossesse se passe bien, tu restes tranquille.
C'est ça, et ensuite, arrivé du coup en mai, donc moi l'accouchement était prévu pour juillet, pour je crois mi-juillet, du coup, comme d'habitude, fin mai, fin de la saison de foot, et donc on sait qu'on va partir, mais on ne sait pas encore où, parce que c'est toujours, c'est toujours comme ça, on sait qu'on va partir, mais on sait pas où, donc on rentre voir notre famille, on laisse la maison à Laval, on rentre, on profite un peu de notre famille et on attend cette fameuse période du mercato. C'est la période en fait où les joueurs changent de club, sont vendus entre les clubs. Donc c'est une période pas très facile pour tous les joueurs. Et on attend que la nouvelle tombe en fait en même temps que la fin de ma grossesse. Donc et lorsque la nouvelle tombe, je suis à je crois 2-3 semaines de mon accouchement.
OK.
Donc moi j'espérais vraiment accoucher avant qu'il parte. C'était vraiment je faisais tout, voilà, je me mettais à bouger, je voulais absolument accoucher avant que mon mari parte, parce que je me disais au moins je suis sûre qu'il sera là. Là, au moins, il n'y a pas de souci, il est avec moi. Donc, j'avais prévu d'accoucher dans la région de chez mes parents.
D'accord.
Parce que du coup, comme on avait quitté Laval, je me disais que c'était plus simple. Et que si, en plus, mon mari devait partir, que je ne serais pas toute seule, qu'il y aurait mes parents avec moi. Donc, du coup, j'avais prévu tout l'accouchement à côté de chez mes parents. Enfin, à côté, parce qu'ils sont en pleine campagne. Donc, la maternité était à 45 minutes de chez eux.
Mais parce que quand tu dis, en gros, parce que je sais pas comment ça se passe, mais en gros, il signe un nouveau contrat donc dans une nouvelle ville. Lui part en éclaireur, toi tu restes sur place et après tu le rejoins.
C'est ça, c'est un peu ça en fait. Lui, quand il signe son contrat, dès l'instant que les deux côtés se sont mis d'accord, le club et le joueur, lui en fait, il doit partir tout de suite. C'est par exemple là, il allait à Dunkerque. Ils se sont mis d'accord le soir. Le lendemain matin, il a pris la voiture, il est parti à Dunkerque.
Ah ouais.
Mais il part à Dunkerque, il revient pas. C'est très très radical.
Ah oui, d'accord.
Donc c'est assez brutal quand même.
Bah oui, pour la famille,
C'est ça. Après, on commence à avoir l'habitude, mais du coup, il part donc à Dunkerque. Il signe son contrat, il commence sa préparation, la préparation avec l'équipe en fait. Et il revient pas. Il commence juste à chercher un logement sur place.
D'accord.
Et en fait, une fois qu'on a trouvé un logement, moi, je viens le rejoindre et avec les meubles, en fait. On fait venir le camion et...
Et la femme et les enfants.
Et je le rejoins une fois qu'on a le logement. C'est ça, voilà. Donc lui, en attendant, il découvre un peu la région et repère... il fait un peu le rôle d'agent immobilier, essaie de trouver un petit peu les logements sur place. D'accord. Et voilà, mais c'est vrai quoi, non, il part, il revient pas.
Ah ouais, donc effectivement là t'es à 2 semaines d'accoucher, lui il part, t'as prévu d'accoucher dans la région où tes parents sont.
C'est ça.
Donc vous êtes pas du tout là synchro pour le coup.
Pas du tout, ouais. C'est vrai que moi j'avais vraiment espoir qu'il parte, que j'accouche avant qu'il parte. J'avais même dit à ma sage-femme, elle m'avait fait, comment on appelle ça, pour un petit peu déclencher l'accouchement, je sais plus, c'est une manœuvre qu'ils font.
Un
décollement de la membrane.
Ouais,
c'est ça. De la membrane. Je sais plus ce que c'est. Et en sachant que moi, ils avaient hésité à me déclencher plus tôt, parce que j'ai un gabarit. Je suis très petite et je suis très fine.
Ouais.
Je mesure 1m55, je suis très petite. Et j'avais un bébé, ils estimaient son poids à 4 kilos. Donc, c'était un gros bébé pour ma morphologie.
Ouais.
Donc, du coup, ils avaient hésité un petit peu à me déclencher avant l'heure. Ce qui m'arrangeait, j'avoue, parce que je me disais, comme ça, c'est bien, mon mari, il sera là.
Ouais.
Sauf qu'au final, quand je suis arrivée donc, dans la région de mes parents, je suis tombée sur une sage-femme très nature. Et franchement, je leur remercie parce que j'aurais pas vécu ça si elle m'avait déclenché, du coup. Mais elle m'a dit non, on laisse faire la nature, faites confiance à la nature, on fait pas de déclenchement, vous inquiétez pas, tout se passera bien. Et puis dans tous les cas, si jamais, parce qu'il y avait un risque de césarienne, elle dit bah okay. Si jamais il y a besoin, bah on fera une césarienne et puis c'est tout. Voilà. Donc bon, moi j'avais pas trop envie d'une césarienne, mais bon, je me suis dit bon, je vais lui faire confiance. De toute façon, j'ai pas le choix. Elle voulait pas me déclencher, donc ouais. Donc la seule chose qu'elle m'a faite, c'est justement le décollement de membrane. Voilà, c'est la seule chose qu'elle a bien voulu me faire. Et bah ça n'a pas fonctionné. Hein. J'ai pas accouché et lui il est parti.
Est-ce que t'avais prévu un plan B, une personne qui le remplacerait au cas où il puisse pas être là le jour de l'accouchement ?
Oui, bah justement, je m'étais dit, enfin que ma maman viendrait avec moi, justement, ça serait elle qui assisterait à l'accouchement si jamais. Mon mari ne pouvait pas être présent.
D'accord.
Je pense qu'elle était loin de s'imaginer la manière dans laquelle elle allait assister à l'accouchement. Elle était loin de s'imaginer que ça allait se passer comme ça.
Alors raconte-nous comment ça s'est passé.
Alors il faut savoir qu'avant l'accouchement, peut-être une semaine avant, j'ai eu un épisode de contraction. Mon mari était encore là. Je me demande si c'était même pas la veille qu'il parte. Hein. C'était vraiment juste avant qu'il parte.
Ouais.
Donc, je lui dis, emmène-moi à l'hôpital, parce que ça me faisait un peu mal, mais ça va, c'était supportable. Mais en mesurant mes contractions, c'est vrai qu'elles étaient quand même assez régulières toutes les 5 minutes. Et ça voulait pas s'arrêter malgré une prise de spasfon ou quoi. Donc, je me suis dit, on va quand même aller contrôler à la maternité. Et à la maternité, ils m'ont dit, c'est du faux travail. Donc ils m'ont renvoyée chez moi et effectivement c'était du faux travail parce que c'est passé un petit peu, je crois le lendemain c'est passé. Donc en fait une semaine après cet épisode de faux travail, j'ai eu l'impression que c'était du faux travail qui recommençait.
D'accord.
Quand le matin je me réveille, en fait j'ai été réveillée par une contraction et j'ai eu l'impression d'avoir une fuite urinaire.
Ouais.
Ce qu'on peut avoir généralement en fin de grossesse. J'en avais quelques-unes, c'est vrai que pour que mon fils il était très gros et il appuyait beaucoup vers le bas. Donc avec lui, j'ai eu quelques petites fuites urinaires. Donc je me suis dit bon bah c'est rien, c'est lui qui appuie.
Ouais.
Je pensais que c'était une fuite urinaire. Sauf que une deuxième qui arrive, qui pique un petit peu plus. Mais franchement, voilà, c'était supportable. Pour ma fille, j'ai connu les grosses contractions. Donc bon, je me suis dit je vais me lever, je vais faire tout ce qu'on nous dit de faire, prendre un spasfon, prendre un doliprane, prendre un bain. J'envoie un message quand même à mon mari. Alors parce que lui, il faut savoir aussi. Qu'il était en stage, parce qu'il avait signé à Dunkerque, mais il était en stage de préparation au Touquet. Donc il avait demandé à son entraîneur s'il pouvait prendre sa voiture personnelle, au cas où, si jamais le travail commençait, il aurait pu prendre la route. Il était, je crois, à 2 heures de route de chez nous, donc bon, il aurait peut-être pu avoir le temps d'arriver.
Ouais.
Donc je lui envoie un message, je crois qu'il était, il devait être 7h30, un truc comme ça, 7h30 du matin. Je lui dis, écoute, j'ai des contractions, je vais prendre une douche, un bain et je te tiens au courant. Et en fait, bah là, ça a été très, très, très vite. J'ai pas compris, en fait. Je suis passée du stade où j'ai eu, je pense, même pas trois contractions, je crois, avant de prendre ma douche. Je rentre dans la baignoire et là, j'ai une contraction, mais très douloureuse. Là, par contre, là, je l'ai bien sentie.
Ouais.
Et au moment où j'ai la contraction, je perds du liquide. Donc là, je me dis, ça y est, la poche des os, elle est rompue. Donc j'appelle mon mari. Je dis, bah, vite, vite, prends la route. Prends la route parce que là, c'est sûr, ça va être pour aujourd'hui. J'ai percé la poche des os. Donc, je lui dis, bon, fais attention parce que alors, j'imagine que lui, là, il va prendre la route un petit peu vite. Hein, donc, j'avais un peu peur de ça. Donc, je lui dis, mais t'inquiète pas, il y a le temps. Voilà, parce que pour ma fille, ça avait quand même pris plus de 24 heures. Donc,
oui.
Voilà, je lui dis, t'inquiète pas, prends ton temps. Je vais prendre une douche. Voilà, et je vais dire à ma mère qu'elle m'emmène à l'hôpital. Donc, et en fait, dans la douche, j'ai voulu faire ce que je pense que toutes les femmes font. Donc, j'ai téléchargé cette fameuse application pour mesurer les contractions.
Ouais.
Parce que je m'en souviendrai toujours, j'ai encore la capture d'écran. Elles étaient même plus mesurables parce que ça s'est enchaîné, en fait, elles s'arrêtaient plus. Ça s'arrêtait pas. J'arrivais même pas à appuyer sur start et stop parce que ça s'arrêtait jamais, en fait.
C'était constant.
Elles étaient à la suite. Elles s'enchaînaient et ouais, c'est ça. Et la douleur, j'ai pas eu d'entre-deux, quoi. Ça a été de rien à très fort d'un coup. Donc, j'ai commencé un peu à gémir quand même. Hein. Ça a été, j'ai commencé un petit peu à, juste le temps de prendre ma douche. Hein. Donc, c'était une petite douche de 5 minutes. Hein. Donc, ça a été très rapide. Et j'appelle ma mère qui dormait à l'étage et je lui dis, écoute, maman, réveille-toi parce que je pense que c'est le moment. Et ça va, j'ai l'impression que ça va assez vite. Donc, traîne pas. Elle descend. Et juste le temps qu'elle descende l'étage, je commençais à hurler. Et elle tambourinait à la porte, elle me disait « mais ouvre-moi » Elle me disait « ouvre-moi, ouvre-moi » Donc ça a beau être ma mère, je suis quand même une pudeur, je voulais quand même m'habiller quand même avant de lui ouvrir. Et je lui disais « mais attends, je m'habille, mais non, mais je m'en fiche, je dis, ouvre la porte !»
Bah oui.
Elle me dit « ouvre la porte et tout !» Donc je lui ouvre la porte, et puis là elle me voit à quatre pattes sur le tapis de douche devant la baignoire. Et je lui dis « maman, écoute, j'ai l'impression que ça va vite emmène-moi tout de suite à l'hôpital. » Elle me dit « attends Mélanie, je te connais, je t'ai vue pour Alia, enfin pour ma première. Si tu cries comme ça, c'est que c'est tout. Là, tu vas accoucher ici. » Donc moi, quand elle m'a dit ça, je me suis dit « mais non, elle exagère. » Je me dis « ouais, je vais pas accoucher ici. Je sais pas possible. » Elle me dit « non, non, j'appelle les pompiers tout de suite. Je te mets pas dans la voiture. » Et heureusement qu'elle ne m'a pas mise dans la voiture, parce que ça a été tellement vite que j'aurais accouché dans la voiture. Mais sur le coup, c'est vrai que quand elle m'a dit ça, je me suis dit non, elle exagère. Enfin, pour moi, c'était improbable que j'accouche tout de suite sans forcément aller à la maternité. Et puis le temps qu'elle appelle les pompiers, donc je l'entends appeler les pompiers, etc. J'essaye de me déplacer. Et forcément, comme toutes les femmes qui sont passées par là, on a forcément cette fameuse envie d'aller aux toilettes. Donc quand j'ai senti cette envie là, je me suis dit c'est bon, je vais accoucher ici. Donc et là en fait, ça a été l'instinct où vraiment qui a pris le dessus. Je me suis plus du tout reconnue. Je me suis mise à quatre pattes, j'ai agrippé les barreaux des escaliers qui étaient devant la salle de bain et j'ai essayé, je me suis dit bon, il faut que tu gères un peu tes contractions quoi, il faut que tu arrives à gérer la douleur parce que la douleur était vraiment intense. Et j'avais surtout une très grande peur, c'est que je faisais que de penser à ça. Comme on m'avait dit, risque de césarienne.
Ah oui, c'est vrai.
J'avais vraiment peur que mon fils, en fait, ne passe pas. Je me disais, mais si il passe pas, comment on fait? Il y a pas de médecin, il y a pas de bloc opératoire. Donc j'avais vraiment cette grande peur. Au moment où j'ai réalisé, où je me suis dit, écoute Mélanie, tu vas accoucher ici, tu n'auras pas la péridurale. C'est forcément on y pense. je me suis dit, bon, écoute. Faut que tu fasses avec quoi. Ça va se passer comme ça. Maintenant, faut que tu sois forte et tu vas y arriver. Et c'est vrai que j'ai eu cette peur, par contre, qui a pris vite le dessus. Je faisais que de penser à mon fils. Je pensais même plus à la douleur. Je me disais, mais il faut qu'il passe quoi. Il faut qu'il passe.
Ouais.
Et c'est vrai que j'ai fait quelque chose que jamais j'aurais pensé avoir la force de faire. Mais je me suis auscultée toute seule. J'ai mis la main parce que je voulais savoir s'il descendait.
Ouais.
Donc je mets la main, donc j'arrive à rentrer, un peu comme les sages-femmes quoi, je me suis improvisée sage-femme, j'arrive à rentrer je sais plus combien de doigts, mais ce que j'ai senti surtout, c'est que j'ai senti sa tête avec le cordon sur la tête. En fait j'ai senti le cordon sur sa et avec sa tête derrière en fait, je sentais ça. Et là je me suis dit c'est bizarre de sentir le cordon, enfin c'est bizarre. Et je dis à ma mère, je dis maman, je sens le cordon et tout, c'est bizarre, non? Je sens le cordon. Et ma mère, pour me rassurer, elle savait que c'était pas normal, mais elle m'a dit, mais non, t'inquiète pas, c'est normal, c'est bien, il arrive, tu vois, il passe et tout, il arrive, t'inquiète pas et tout. Et elle me dit, de toute façon, les pompiers, ils arrivent, sauf que dans notre un peu périple, les pompiers se sont perdus.
Mais non.
Ils ont mis, je crois, 25 minutes à arriver, alors que d'habitude, ils prennent 5 minutes. Et ils nous ont dit, vraiment, on est désolés. Je sais pas, leur truc, il était pas à jour, ou je sais pas.
Ah là là.
Ils se sont perdus, ils trouvaient pas du tout la maison. Et mon père, qui était dehors en panique, essayait de faire des grands gestes. Il nous a expliqué ça après. Qu'il était dehors en train de faire des grands gestes pour essayer de trouver les pompiers, pour leur montrer où était la maison. Et du coup, pendant tout ce temps-là, on a dû tout gérer avec ma mère, en fait. Et donc, quand je lui ai dit qu'il y avait le cordon, elle a essayé de me rassurer, de me dire « Non, t'inquiète pas, c'est normal. » Et c'est vrai que ça a été une sensation vraiment incroyable parce que je l'ai senti tomber, en fait, dans le bassin. En fait, ça m'a fait un poids énorme dans le bassin. Et ça m'a en même temps rassurée parce que du coup je me suis dit c'est bon, il passe en fait, s'il est tombé dans le bassin c'est que ça passe. Et là ça a été instinctif, je me suis dit c'est bon, il arrive, il faut que je me prépare et je vais accoucher. Donc je me suis mis sur le dos, j'ai mis mes pieds sur ma mère, enfin sur un pied sur la porte et un autre pied sur ma mère. Non mais c'était très quand j'y repense. J'avais la tête sous les escaliers, donc il fallait pas que je lève la tête parce que sinon je me cognais dans les escaliers. Donc c'était très drôle hein, comme situation. Et donc ma mère tout de suite a pris le relais et a s'est mise devant pour accueillir mon fils.
Wow.
Entre-temps les pompiers sont arrivés, mais moi j'étais en train de pousser, enfin ma mère elle voyait déjà la tête qui sortait en fait. Et les pompiers en fait en panique, le pompier il était super, franchement je les remercie, ils étaient super sympas, super gentils et tout, et c'est quand même rassurant déjà quand tu vois arriver les pompiers. Mais c'est vrai que sur le coup, je pense qu'il a pas dû avoir affaire à beaucoup d'accouchements, parce qu'en campagne, je sais pas, c'est peut-être plus rare, je sais pas. Mais je crois que c'était son deuxième accouchement, je crois. Et je pense que eux, ils se sont dit, c'est une dame qui est en train d'accoucher, on va la prendre, on va l'emmener à l'hôpital. Je pense pas qu'ils s'attendaient à ce que je sois en train d'accoucher. Et donc il me dit, madame, regardez-moi dans les yeux, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, je vais vous bouger de place. Et en fait, il comprenait pas que j'étais en train d'accoucher et que le bébé il sortait en fait, je pouvais pas bouger. Et il me disait, je vais vous bouger. Je lui disais, non, vous me bougez pas, je suis en train d'accoucher. Il me dit, mais si vous êtes pas bien, parce que le pauvre, il m'a vu avec la tête sous les escaliers, là, avec le pied sur ma mère et tout. Donc, il s'est dit, la pauvre, elle est pas bien. Et donc, je l'ai regardé, je lui dis, mais vous, regardez-moi dans les yeux. Je suis en train d'accoucher, le bébé sort. Donc, du coup, c'est là qu'il a réalisé, je pense. Et tout de suite, après, il s'est mis en marche, il a sorti l'oxygène, il m'a mis de l'oxygène, voilà. Mais du coup, ma mère, en fait, a tellement pris les choses en main que le pompier était juste à côté avec, pour fournir le matériel. Voilà, c'est ça. Et du coup, ma mère a tout pris en charge. Et donc, après, elle m'a expliqué que c'était incroyable parce que, au début, donc effectivement, il est arrivé avec le cordon. Hein. Donc, il est sorti et en fait, elle m'a dit, il a tout fait tout seul, hein, il s'est tourné, mais sauf que quand il est sorti, le cordon, si je me souviens bien, elle m'a dit, il est passé devant ou derrière la tête, je sais plus. Mais du coup, il était bloqué. Il pouvait plus sortir. Ouais. Et ben, heureusement qu'elle me l'a pas dit. Hein. Ça, j'étais pas au courant. Elle me l'a su après. Enfin, elle me l'a dit après. Ouais. Mais heureusement qu'elle me l'a pas dit parce que je pense que j'aurais eu peur. Hein.
Bien sûr.
Et en fait, elle a eu l'instinct vraiment incroyable d'attraper le cordon, de le faire passer dans l'autre sens pour pouvoir dégager mon fils, en fait, et qu'il finisse de sortir tranquillement, on va dire. Mais heureusement qu'elle a eu cet instinct-là parce que je sais pas comment on aurait fait sinon. Du coup, elle a enlevé le cordon et puis après il est sorti. Et je me souviendrai toujours. C'est vraiment ça, c'est une image qui m'a vraiment marquée et je m'en souviendrai toute ma vie. C'est que je vois ma mère en fait me tendre mon fils. En fait, elle m'a pris mon fils et elle me l'a tendu.
Magique.
Et là, c'était vraiment incroyable. J'oublierai jamais. C'est ça, c'était magique. Franchement, c'était magique. J'oublierai jamais. Ma mère qui me tend mon fils et c'est elle qui vient de m'accoucher, quoi. C'est vrai que c'est un moment à vivre avec sa maman qui est incroyable. Ça nous a vraiment rapprochés. Et même elle était tellement fière d'avoir accouché son petit-fils, d'avoir mis au monde son petit-fils. Elle était tellement fière de ça. Donc, non, et après, c'était que du bonheur. Elle m'a mis mon fils sur moi. Les pompiers ont pris le relais tout de suite avec les couvertures de survie. Voilà. Elle a coupé le cordon. Elle a voulu couper le cordon. Donc, elle a vraiment fait les choses jusqu'au bout, en fait. Et après, bien sûr, les pompiers ont fait les premiers soins au bébé. Le SAMU est arrivé derrière pour continuer les soins. Et puis, moi, après, pour le placenta, etc. Mais c'est vrai que ouais, ça a été un moment vraiment magique. Hein. Franchement, c'était... C'est pas du tout l'accouchement que j'aurais imaginer, parce que je pense que personne peut imaginer ce genre d'accouchement. Mais demain, si on me le propose, je signe tout de suite.
Ouais.
C'est incomparable avec un accouchement médicalisé. Demain, si jamais il devait y avoir un troisième, c'est pas dans notre projet, mais bon, s'il devait y avoir un troisième, je voudrais un accouchement, peut-être pas à la maison, parce que je me dis, si jamais il y a des complications, c'est vrai que... Il n'y a pas le corps médical derrière, mais un accouchement vraiment physiologique, sans péridurale, dans une salle de naissance un peu cosy.
Ouais.
Voilà. C'est vrai que je choisirais plus un accouchement comme ça que l'accouchement que j'ai eu pour ma fille. C'est vrai que c'est vraiment incroyable à vivre.
Et alors après ça, toi, t'es restée chez toi ou ils t'ont quand même emmenée à la maternité où ils ont fait tous les soins à la maison et t'es restée à la maison?
Alors j'ai eu les premiers soins vraiment partiels, hein, c'est-à-dire juste le fait de sortir le placenta par le SAMU. Après ils ont habillé mon fils, forcément le petit bonnet et tout. Du coup le petit sac était prêt hein, pour la maternité, mais du coup ils ont pris tout ce qu'il y avait dans le petit sac. Et ma mère avait déjà la table allongée derrière, elle avait déjà tout préparé la venue du bébé. Donc heureusement tout était déjà prêt, ils ont pu se servir de tout ça pour les premiers soins du bébé. Et ensuite, non, ils m'ont emmenée à l'hôpital. Et c'est vrai que moi, j'avais encore une crainte. c'est que comme j'avais, il était gros, il faisait je crois 3,8 kg. Bah forcément on pense tout de suite à ça, on se dit si j'ai une déchirure, ils vont sûrement me recoudre. Et c'est vrai que j'avais eu des témoignages de copines qui étaient passées par là et que c'était quand même pas facile. Donc j'appréhendais un petit peu qu'on me dise madame, enfin moi pour moi c'était sûr, ils allaient me recoudre c'était sûr vu la grosseur du bébé. Donc je suis arrivée à l'hôpital. Alors entre-temps mon mari parce que du coup le pauvre je l'ai oublié du coup. Parce que entre-temps mon mari a pris la route. Il prend la route et puis mon père l'appelle peut-être. Moi je lui avais dit t'inquiète pas, je te rappelle. Lui il attendait que je le rappelle. Sauf qu'il n'avait pas de nouvelles. Et mon père entre-temps le pauvre il a dû gérer ma fille parce que la pauvre elle a entendu sa maman hurler, donc ça l'a réveillée. En fait, mes hurlements l'ont réveillée. Donc la pauvre, je la revois, la pauvre, elle m'a fait mal au cœur. Elle descend les escaliers, elle en pleure. « Maman, qu'est-ce que t'as ?» Enfin, elle est en panique, la pauvre.
Bah « oui,
t'as mal, qu'est-ce que t'as ?» Et donc tout de suite, mon père l'a pris sous son aile, l'a mis devant un dessin animé, il lui a dit « t'inquiète pas, c'est parce que ton petit frère, il arrive. » Enfin voilà, il lui a expliqué un petit peu à ma fille pourquoi, effectivement, j'avais mal, mais que c'était pas grave, qu'une fois que son petit frère serait sorti, tout irait bien. Donc, il s'est occupé de ma fille. Et entre-temps, il a appelé mon mari. Ouais. Et il lui dit, elle est en train d'accoucher. Sauf que mon mari, il s'est dit, mais comment ça il n'y a pas longtemps, elle m'a appelé et elle est en train de me dire, je prends ma douche. Parce que ça devait être peut-être 15 minutes après. C'était vraiment sur une durée très courte.
Ah oui, d'accord, ouais.
Donc lui, il a pas compris. Il s'est dit, comment ça, elle est en train d'accoucher. Il a dit, oui, c'est Sylvie qui est en train de l'accoucher. La femme de ma mère s'appelle Sylvie. Et il m'a dit, je t'entendais derrière en train de crier. Je te reconnaissais même pas, quoi. C'était... Donc c'est vrai que du coup, quand il m'a entendu crier comme ça, il a un peu plus accéléré. Et après, mon père l'a appelé, je sais pas, peut-être pareil, une quinzaine de minutes après, parce qu'en tout, ça a été très vite, ça a duré 45 minutes de la première contraction à l'heure de naissance.
Ouais.
Et il l'a rappelé, il lui a dit, écoute, il est là, ça sert à rien de venir, en gros, c'est trop tard. C'est ça. Il dit, ça sert à rien de venir, va directement à l'hôpital, parce que du coup, c'était sur la route. Et puis Mélanie, elle va te rejoindre là-bas avec les pompiers, quoi. Donc du coup, je suis arrivée à l'hôpital avec les pompiers. Mon mari m'attendait là-bas. Donc je suis arrivée, c'était un petit peu drôle parce que je suis arrivée avec le brancard. Donc j'étais sur le brancard, j'avais mon fils sur moi. Et on passe le couloir où toutes les mamans qui sont en fin de grossesse attendent leur rendez-vous du troisième trimestre d'avant accouchement. Et là, ils m'ont toutes regardée en se disant « Mais elle a accouché chez elle, c'est sûr, c'est jamais avec le bébé. » Elles m'ont toutes regardée avec des yeux. Je suis sûre qu'elles se sont toutes dit « Pourvu que ça m'arrive pas. » Je suis sûre qu'elles se sont toutes dit ça. Elles m'ont toutes regardée avec un air... étonnée et après je suis arrivée, mon mari m'attendait et puis du coup j'ai pu recevoir les premiers soins du coup à l'hôpital. Mon mari a pu quand même faire le pot à pot avec son fils, donc ça franchement j'étais contente parce que comme il avait pas pu assister à l'accouchement, c'était top. Et puis là j'ai eu la bonne surprise que en fait il y a pas eu de dégâts, quoi, tout est parfait, pas besoin de soins.
Trop bien.
Donc j'étais agréablement surprise. Et j'ai pu repartir en marchant jusqu'à ma chambre. C'est ça l'avantage aussi de pas avoir de péridurale. Hein.
Ouais, t'as récupéré beaucoup plus vite.
Ouais, franchement, ouais, rien à voir qu'avec ma fille. C'était tout de suite. Hein. Franchement, on a l'impression que limite on n'a pas accouché, quoi. On est tout de suite en forme.
Et donc après, t'es rentrée à la maison au bout de combien de temps ?
Alors le problème, c'est qu'on avait toujours pas de maison quand on est rentrée. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà à l'hôpital, le jour même où j'ai accouché, je crois que j'ai accouché, du coup, il devait être 8h, je suis arrivée à l'hôpital vers 11h, et je crois que je suis arrivée en chambre vers 13h. Même pas une heure après que mon mari était en train d'appeler des camions de déménagement pour déménager notre maison, enfin les sociétés de déménagement. Et entre-temps, il fallait qu'on fasse le déménagement. Donc heureusement que toute notre famille est super solidaire avec nous, ils ont tous été à Laval, ils se sont occupés du déménagement. On n'a même pas pu dire au revoir à d'autres maisons, en fait. On a dû tout gérer à distance. Et moi, depuis la maternité, donc pendant tout le séjour à la maternité, j'ai géré le déménagement. Et ensuite, on n'avait toujours pas de chez nous. Donc, je suis rentrée chez mes parents. C'était un peu difficile parce que mon mari, il a eu le droit qu'à une journée. Donc,
ah ouais.
Il n'a pas pu rester avec moi le long du séjour à la maternité. Déjà, c'était déjà exceptionnel qu'il le laisse venir. Il y a des clubs des fois qui refusent.
Même pour l'accouchement.
Ça, je comprendrais. Enfin, ouais, même pour l'accouchement. C'est rare quand même qu'ils refusent. Hein, mais on a déjà entendu des histoires où ils ont refusé. Lui, ça va. Ils l'ont laissé venir. Par contre, tu reviens le soir. Il est arrivé le matin et le soir, on a mangé ensemble, il est reparti.
Ah, dur.
Et là, je me suis retrouvée seule avec mon fils dans la chambre, ma fille chez mes parents ou chez mes beaux-parents. Donc, c'était compliqué parce que j'étais toute seule avec mon fils, sans ma fille, sans mon mari. Donc, c'était un peu dur le séjour à la maternité. En plus, période Covid, donc il y avait que normalement une personne qui est censée rentrer dans la chambre. Donc normalement, logiquement, personne n'avait le droit de venir me voir vu que mon mari avait déjà pris la place de la personne qui est autorisée. Sauf qu'après, on a réussi à s'arranger avec les sages-femmes pour que ma maman puisse prendre le relais et que je reste pas toute seule toute la journée. Mais du coup, il a eu le droit de venir qu'une seule fois et il est revenu le jour où je suis sortie de la maternité. On est rentré chez mes parents, il est resté le week-end et il est reparti à Dunkerque. Et on s'est pas revu. On s'est revu que un mois après.
Ah ouais, carrément.
Ça a été difficile, ouais, franchement, autant pour lui que pour moi. Lui, il était tout seul dans un petit studio, le temps de trouver une maison à Dunkerque, et moi, j'étais ici avec les enfants chez mes parents à attendre qu'on trouve un logement, en fait. C'était un peu compliqué le début.
Ouais, tu m'étonnes.
Mais bon.
Oui, ensuite vous êtes tous retrouvés à Dunkerque.
C'est ça. Un mois après, on en a eu marre. Même si on n'avait pas trouvé de logement, on s'est dit allez, vas-y, tant pis, on va se serrer dans le petit appartement, le temps de trouver quelque chose. Et donc on est parti le rejoindre à Dunkerque. On n'a pas pu tenir et je crois que deux semaines après, on a réussi à trouver un logement. Enfin.
Bon, et cette nouvelle vie, maman de deux, comment ça s'est organisé? L'allaitement s'est bien passé aussi pour le deuxième?
Ouais, pareil, l'allaitement s'est super bien passé, et surtout que même encore mieux que pour la première, hein, ça a été vraiment, c'était fluide quoi. Franchement, l'allaitement avec le deuxième, ça a été vraiment très fluide. Et puis après, c'est vrai que c'est encore une nouvelle vie, parce qu'on connaît la vie avec un enfant, mais avec deux enfants, ça change encore.
Ouais.
C'est encore un autre rythme à prendre. C'est encore la vie qui s'accélère encore plus. Mais c'est encore une dose de bonheur en plus, quoi. C'est vrai que ça s'accélère plus, mais à chaque fois, c'est que du bonheur, en fait. C'est encore une fois plein de bonheur. Et puis surtout de voir le premier, de voir la grande, en fait, qui s'occupe de son petit frère, qui est émerveillée devant son petit frère. Ça, franchement, ça n'a pas de prix. C'est juste incroyable.
Quelle aventure.
Oui.
Depuis, vous avez déménagé, redéménagé. Tu me disais en off tout à l'heure que c'était à peu près chaque année.
Oui, ensuite, donc on a fait toute l'année à Dunkerque. Et c'était top aussi à Dunkerque. C'est bien parce que nous, du coup, ça nous fait découvrir quand même pas mal de régions.
Oui.
C'est quand même assez sympa. Et ensuite, alors là, ça a été le grand changement. Parce que là, on est parti à l'étranger. Donc à la fin de la saison à Dunkerque. Donc un an après, mon fils avait un an. Il a signé en Lettonie.
Okay.
Du coup, là, c'était vraiment le grand voyage. C'était la première à l'étranger. Et ça n'a pas été une année facile parce que il a eu une grosse blessure. C'est un peu la blessure typique des footballeurs. C'est les ligaments quoi, qui ont lâché. Et en fait, ça ne s'est pas forcément bien passé. Parce que en Lettonie, en fait, dans le club où il a signé, quand il y a une grosse blessure... Ils envoient leurs joueurs en Slovénie, dans un centre spécial où il y a des kinés, des médecins qui les prennent en charge. Et donc, du coup, nous, quand on a enfin réussi à le rejoindre en Lettonie, parce que là, ça a été pareil en Lettonie, on a dû le rejoindre peut-être trois mois après, le temps qu'il trouve un logement. Et en fait, une fois qu'on est arrivé, que j'ai enfin rangé toutes les affaires, que j'ai fait le ménage dans l'appartement, je me pose devant le match et là, je vois qu'il se blesse. Ouais. Et je sais pas pourquoi je sens tout de suite que c'est une grosse blessure. Et la veille, il venait de me dire, ici, quand tu te blesses, il t'envoie à l'étranger. Et je lui avais dit, j'espère que...
Te blesse pas.
Ça n'arrivera pas parce que je me vois pas rester toute seule ici. Ouais, voilà, je dis surtout te blesse pas parce que, déjà, d'une, s'il se blesse pour sa carrière, oui. C'est compliqué parce que ça lui fait un gros moment sans jouer. Et puis de l'autre côté, nous, on aurait été seuls dans un pays où on connaît personne, où on ne parle même pas la langue. Donc c'est vrai que je lui avais dit, j'espère qu'il se blessera pas. Et le lendemain, je sais pas, il l'a peut-être senti, je sais pas, mais le lendemain, il se blesse et il se fait ses grosses blessures. Il s'est blessé le dimanche soir, le mardi matin, il était dans l'avion.
Ah là là.
Donc, moi, je me suis retrouvée toute seule dans un pays que je connais pas, où je viens d'arriver en plus, donc j'ai zéro repère. On n'avait même pas encore loué une voiture, donc j'avais même pas de moyen de transport. J'étais avec mes deux enfants, toute seule, et je me dis, bon, bah, faut que je refasse tous les bagages et que je m'organise pour repartir. C'est vrai que ça a été quand même assez compliqué, ouais.
Et les enfants, du coup, changent d'école aussi, chaque année?
Bah ouais, ma fille, mon fils encore était un peu petit.
Ouais.
Ma fille, c'est vrai que ça a été compliqué, la première école qu'elle a quittée à Dunkerque. J'ai essayé de la meilleure des manières de lui expliquer que, on ne reviendrait pas dans cette école, qu'elle fallait qu'elle dise au revoir à ses copines, à sa maîtresse. Et j'ai essayé de lui expliquer qu'on allait partir dans un nouvel endroit, qu'on allait avoir une nouvelle maison, qu'elle allait avoir une nouvelle école avec des nouvelles copines. Mais c'est vrai que ça a été compliqué pour elle parce que elle aimait beaucoup la maison dans laquelle on était, et du coup elle s'imaginait pas partir de la maison parce qu'elle avait tous ses repères là-bas. Donc ça a été difficile pour elle. Mais on a la chance, c'est que ma fille, elle est très très sociable, donc du coup elle s'adapte très facilement. Ça, franchement, c'est une chance parce que c'est vrai qu'avec la situation, heureusement qu'on va dire qu'elle est un peu comme ça, parce que ça serait plus difficile pour elle, je pense, si elle n'était pas comme ça. Et donc après, en Lettonie, on a dû trouver une école, mais comme en fait quand on est arrivé, on a dû tout de suite repartir vu qu'il s'est blessé. Du coup, la pauvre, elle a eu énormément de changements cette année, et je pense que ça l'a un peu perturbée. Parce que on a dû revenir chez mes parents. On est resté 6 mois en tout chez mes parents, sans mon mari, donc sans leur papa.
Ouais.
Donc ça a été dur pour eux de qu'il n'y ait pas papa à la maison. Tous les jours, j'entendais « il est où papa ?»« Il vient quand ?» Elle a dû aller dans l'école, du coup, qui est à côté de chez mes parents. Mon mari, il a pu venir nous voir une semaine un peu par-ci, par-là, mais on va dire qu'il est peut-être venu, je crois, 3-4 fois. 3-4 fois, 1 ou 2 semaines à chaque fois. Entre deux, en fait, entre ce qu'il a dû se faire opérer. Enfin, voilà, c'était un long parcours. Et du coup, 6 mois après, au mois de février, on est retourné en Lettonie. Et donc, la pauvre, rechangement d'école. Et là, elle est arrivée dans une école. Donc, heureusement, j'avais trouvé une école française à Riga. Donc, c'est dans la capitale. Mais le problème de cette école française, c'est qu'il y a très peu de Français en Lettonie. Et du coup, c'est une école qui est fréquentée que par des Russes. Donc, dans sa classe, il y avait, je sais pas, moi, 80% de Russes. Il devait y avoir 2 Lettons et ils étaient que 2 Françaises dans la classe.
Oui.
Donc ça a été difficile pour ma fille parce que malgré qu'ils parlent français, parce que les Russes ont déjà appris à parler français l'année précédente, mais ils sont, on va dire que je pense que c'est culturel là-bas, ils sont très fermés. Ils sont pas trop sociables, ils sont pas du genre à aller vers les autres, voilà. Et ma fille allait vers eux, mais eux, elle était beaucoup rejetée par eux, quoi, parce que pour eux, c'était une étrangère, donc ça a pas été facile pour elle au début. Puis après, elle a eu sa petite copine française, et voilà, je lui disais, écoute, Alia, tu t'en fous des autres, t'as ta copine, et puis voilà, tu fais pas attention. Elle me dit, oui, c'est vrai, maman, t'as raison, j'ai ma copine. Donc après, ça va, elle a réussi à trouver, justement, à être épanouie quand même dans cette école avec sa petite copine. Mais bon, là, ça a encore été le déchirement encore là, lui expliquer qu'on doit partir, qu'on va rentrer en France, et qu'il faut dire au revoir encore une fois à sa maîtresse, sans dire au revoir encore une fois à sa copine. Donc bon, mais je vois qu'elle commence un petit peu à s'habituer, elle gagne en maturité, là, elle a 5 ans, donc ça me fait rire. Enfin, des fois, je trouve ça admirable parce qu'elle me dit « Oui, t'inquiète pas, maman, je vais retrouver papy, mamie, je vais retrouver mes cousins, cousines, et je vais retrouver d'autres copines. » Donc, elle me répète ce que moi, je lui ai déjà dit les années auparavant. Mais sinon, ouais, voilà, du coup, c'est toute une vie un peu de migration comme ça, quoi.
Ouais, c'est un petit peu à part, effectivement. Et toi, niveau travail, est-ce que tu as repris depuis, ou parce que vu tous ces changements aussi, c'est difficile d'avoir une carrière de ton côté?
Ouais, franchement, c'est très compliqué. Pour tout avouer, moi, j'ai mis toute ma carrière de côté pour la carrière de mon mari.
Ouais.
Parce que nos carrières ne coïncidaient pas ensemble, en fait. Moi, j'avais un travail très prenant. Et lui, le sien, en fait, le foot, c'est vraiment... on vit que pour le foot, en fait. Toute notre vie est rythmée par le foot. on peut jamais rien prévoir parce que c'est toujours des choses de dernière minute. C'est vraiment le foot qui rythme notre vie. Donc c'est compliqué de trouver un travail et d'avoir une vie professionnelle à côté. C'est pas infaisable. Il y a d'autres femmes qui arrivent à avoir une carrière professionnelle à côté, mais c'est vrai que la plupart, elles sont entrepreneuses ou voilà, elles vont avoir une entreprise, enfin une micro-entreprise, ou elles vont travailler à leur compte. Donc c'est vrai que moi, je me penche de plus en plus à trouver justement quelque chose que je peux faire à mon compte, voilà, trouver un domaine que je peux exercer à mon compte. Parce que mon travail, malheureusement, c'est plus généralement dans des entreprises et pas trop à son compte. Donc, faut juste que je trouve le bon secteur et faudrait que j'essaye de me lancer dans quelque chose comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une vie professionnelle. C'est pour ça que quand il arrêtera le foot, quand sa carrière sera terminée, je lui ai dit là, cette fois-ci, je reprendrai ma carrière professionnelle. Ouais.
T'es vraiment allée à l'opposé de ce que t'imaginais avant de devenir maman. Toi qui disais, ce sera ma carrière avant tout.
Exactement. C'est ça. Et maintenant, c'est la maman avant tout, c'est les enfants avant tout. Et puis, bah, maintenant, j'ai une vie de maman au foyer, quoi. C'est pas du tout ce que j'avais mis sur mes plans de base. Ouais. Mais bon, c'est une belle aventure aussi. Et puis, je me dis qu'au moins j'aurais vu mes enfants grandir. C'est une chance aussi de ce côté-là,
ouais,
de voir ses enfants grandir. C'est une chance qui est pas donnée à tout le monde. Et je me dis, même si parfois c'est pas toujours facile parce que la vie professionnelle manque beaucoup, mais c'est quand même une chance de voir ses enfants grandir. Donc on en profite en attendant.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Alors habituellement, je demande en fonction de la ville de la maman, mais toi, comme tu changes à peu près tous les 3 jours de ville,
ah oui.
Je vais te poser une autre question.
C'est ça.
C'est quoi pour toi être une maman femme de footballeur?
Alors oui. Alors une maman femme de footballeur, justement, bah c'est une maman qui s'occupe exclusivement de ses enfants déjà, parce que justement, bah comme on n'a pas trop l'opportunité de travailler, même si c'est pas un cas général, hein, y a d'autres femmes qui sont mamans et qui travaillent, qui sont aussi avec des footballeurs.
Ouais.
Mais c'est vrai que la plupart, bah c'est souvent des mamans qui s'occupent de leurs enfants, qui gère tout le foyer, qui gère même tout en fait. C'est en fait comme notre mari est tout le temps en déplacement, tout le temps à fond dans le foot, bah nous on doit gérer tout ce qu'il y a derrière. Même si par exemple il y a des périodes un petit peu compliquées avec les enfants, vous savez, enfin je sais pas si tu vois, mais c'est des fois des petits passages des 2 ans, enfin
oui,
il y a toujours des petits passages un peu compliqués. Et bah le papa est présent, mais je veux dire, il peut pas être autant présent que s'il avait une vie entre guillemets, un emploi normal. C'est plus compliqué quand il a ce genre de métier. Et du coup, c'est à nous de tout gérer en fait. Même cette période là, et on est souvent toute seule avec nos enfants. Donc du coup, je dirais pas que j'ai pas comparé ça à une maman solo qui est célibataire, parce que c'est encore autre chose. On va quand même s'en rapprocher un petit peu parce que bah papa est là, mais il peut pas être là tout le temps en fait. Donc du coup, même si lui il aimerait bien être là tout le temps, il peut pas être là tout le temps. Donc du coup, on fait tout seul.
Même les accouchements.
Même les accouchements, voilà. Même les accouchements. Mais c'est une vraie aventure. Franchement, c'est avoir son mari qui est genre de foot. C'est vrai qu'il y a des inconvénients. Bah là, le fait de tout gérer, les déménagements, se réadapter à chaque fois, chaque endroit, chaque ville, chaque. Voilà, c'est vrai que ça peut faire peur un peu quand on entend un peu notre train de vie. Mais franchement, il y a aussi beaucoup d'avantages. C'est une belle aventure quand on voit ses enfants qui sont derrière leur papa, qui la regardent à la télé. Enfin, moi, quand je vois ma fille qui crie « Allez, papa » à la télé, ou qui crie « Allez, papa » dans le stade, on peut que être fier. Et je pense que même lui, quand il voit sa fille, parce que bon, je pense qu'il doit savoir à peu près où on est dans le stade. Quand il voit sa fille comme ça qui est derrière lui, il doit être vraiment très fier. Et on a une vie un peu atypique, mais on a quand même une chance quand même de vivre tout ça. C'est une belle aventure.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille?
Les projets en famille, bah pour l'instant, sont toujours les mêmes. Hein. C'est on suit le mood foot. On suit la vague du foot en fait. On peut pas avoir de projet en fait en famille, malheureusement, pour l'instant. Parce que c'est le foot qui rythme nos projets, en fait. Ça se fait en fonction du foot. Donc, on peut pas trop avoir d'autres projets. On en aura plus, je pense, quand il aura terminé sa carrière. Par contre, moi, c'est vrai que j'ai des projets qui s'installent maintenant que les enfants commencent à être un peu plus grands. Mon fils, là, va avoir 2 ans, donc il peut peut-être même rentrer, je pense, à l'école. Je vais voir pour qu'il puisse déjà commencer un petit peu l'école dans 6 mois, je pense, cet hiver. Donc, je vais pouvoir un peu reprendre mes projets. Et voilà, mes projets, ça va être plus de faire quelque chose à mon compte, voilà, de faire une formation et pouvoir travailler à mon compte. Voilà, ça va être mon projet de cette année.
Merci beaucoup, Mélanie.
Mais de rien, c'est avec plaisir.
Voilà les mamas, c'est un épisode qui s'achève. Merci pour votre écoute. On se retrouve dès mardi prochain pour découvrir une nouvelle histoire qui parle de la maternité, la vraie. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application de podcast préférée et rejoignez la communauté Hello Mamas sur Instagram. À très vite!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.